Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je peux de ça à personne.
C'est pour ça
que
je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Nous avons Pauline.
Verneuil-sur-Avre, bonjour à tous.
Priscille.
De Breteuil.
Anne-Marie.
D'Anville, commune nouvelle de Ménil-sur-Iton.
Amélie.
De Breteuil également, bonjour à tous. Et pour Bourthe,
Sandrine.
Ça vous gêne pas si je mets un peu de musique?
Non, mais on peut y aller là.
Eh bien, donc cette fois-ci, le thème, c'est la fête de la musique. Bientôt, donc, la musique pour thème. Nous commencerons avec Amélie qui nous embarquera sur le fameux lac de Tchaïkovski. Anne-Marie nous parlera d'un fantôme qui hante la vie d'un pianiste virtuose. Sur fond de jazz, avec Amélie, nous vous emmènerons à travers d'un roman adapté en BD. Puis je continuerai avec un roman policier menant l'enquête sur la disparition du célèbre trompettiste Chet Baker. Priscille a choisi le violon comme fil conducteur. Elle nous présentera une BD, puis un roman construit comme un concerto. Enfin, Pauline nous entraînera au cabaret avec un film d'animation. En avant la musique!
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire? T'as pas lu Proust? Oh, oh là là, je te crois pas.
Alors, est-ce que vous avez reconnu l'air?
Oui.
C'est quoi?
Le lac des Cygnes.
Oui, alors une petite version assez moderne du lac des Cygnes en rock. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Quant à moi, je vais vous présenter un livre CD du lac des Cygnes. Alors, vous allez me dire pourquoi celui-ci? Parce qu'il est vraiment original. Et magnifique, voilà. Donc, juste pour petit rappel, le célèbre ballet-opéra date de 1871 pour la version originale de Tchaïkovski. Le livre que je vous présente, c'est un livre CD qui est paru fin 2017 chez Didier Jeunesse. Et il est vraiment fabuleux. C'est quasiment un objet de collection. Alors, pour commencer, je vous fais juste un petit résumé de l'histoire, pour ceux qui s'en souviennent plus trop, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège. La princesse Odette se transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à la nuit tombée. Le prince Siegfried, subjugué par la grâce de la jeune femme rencontrée par hasard au bord du lac, l'invite au bal dans l'espoir de briser le maléfice. Mais c'est une Odette toute de noir vêtue qui s'y présente, au bras du sorcier von Rothbart. Voilà, donc l'histoire elle est écrite par Pierre Coran et superbement racontée par Nathalie Dessay, qui le rend très vivant. Les illustrations, elles sont réalisées par Olivier Desvaux. Alors je sais que pour vous, c'est un peu dommage parce que vous ne l'avez pas sous les yeux et du coup, vous ne pouvez pas en profiter pleinement. Mais chaque double page, en fait, est présentée comme un vrai tableau de peinture. Alors désolée, mais je le présente quand même à mes collègues parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, c'est vraiment somptueux. Alors, c'est pas qu'un livre, c'est vraiment une œuvre d'art, un livre CD qui est de qualité, donc les musiques sont vraiment superbes, et la voix de Nathalie Dessay est vraiment somptueuse, elle colle au texte, on a vraiment les dialogues qui sont très bien retranscrits à travers les personnages, les intonations de voix sont là, vraiment on ne s'ennuie pas. Voilà, donc c'est un très bel objet de collection à offrir, aussi bien pour les plus jeunes que pour les adultes, et du coup pour redécouvrir ou découvrir le lac des Cygnes. Je vais laisser la parole du coup à ma collègue Anne-Marie.
Oui, alors pas facile de rebondir. Donc moi j'ai choisi Ghost in Love de Marc Lévy chez Robert Laffont, publié en 2019, là donc tout récemment. Et Marc Lévy publie cette année son 20e roman déjà. Et il est le meilleur vendeur français, donc un des plus populaires. Alors mes collègues bibliothécaires, je les vois un peu sceptiques, elles se demandent pourquoi j'ai choisi ce titre, parce que effectivement, enfin, c'est pas de la grande littérature.
Non, faut pour tous les goûts, hein.
Mais tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a en bibliothèque. Et d'abord, je l'ai choisi parce qu'il y a de la tendresse entre les personnages, qu'ils reviennent du royaume des morts ou qu'ils soient bien vivants, mais un petit peu seul. Ensuite, parce que dans Ghost in Love, Thomas est pianiste, même concertiste. Donc on va écouter un extrait. Il s'agit du concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Ici, dans l'extrait, c'est Hélène Grimaud qui joue. Mais dans le roman, Thomas est en concert et il joue ce morceau qui est quand même difficile à interpréter. Et il lui apparaît le fantôme de son père assis dans quelques rangs, ce qui fait qu'il va faire quelques fausses notes. Et le chef d'orchestre ne va pas apprécier. Dans Ghost in Love, il y a Ghost, donc fantôme. Donc voilà, il s'agit bien du fantôme de son père qui est Raymond, un médecin, et il est revenu pour que son fils intervienne à sa place, enfin, du coup, pour lui rendre un service. Alors forcément, imaginez si votre père revenait du royaume des morts et vous parlait, vous seriez surpris, voire réticent. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Voilà, Marc Lévy a ce pouvoir de romancier. Et donc, voilà Thomas, ni une ni deux, parti à San Francisco, une fois qu'il est bien convaincu d'essayer en tout cas de réaliser le vœu de son père. Donc on peut avoir quelques airs de déjà-lu, des clins d'œil volontaires ou involontaires, on ne sait pas, il faudrait poser la question à Marc Lévy, à d'autres de ses romans, comme Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, paru en 2008, où le personnage du père était très important aussi. Et si c'était vrai, puisqu'on retrouve à un moment donné Arthur et Lorraine, donc petit clin d'œil à des personnages fétiches de l'auteur. Donc c'est une histoire un peu rocambolesque, où le temps est compté. Hein, même si les morts ont toute l'éternité devant eux. Et Marc Lévy nous a concocté donc une comédie romantique pour l'été. Alors un petit passage néanmoins qui peut nous faire tous réfléchir. Ne sois pas triste, mon fils. Nous avons essayé. Et puis reconnais que ce voyage nous aura donné un peu de rab. Ce n'est pas offert à tout le monde. Je ne veux pas te voir malheureux à cause de moi. J'ai eu une vie formidable et la tienne le sera encore plus. Pense à tout ce qui t'attend, à tes concerts, à l'amour, à la beauté des matins, à la joie d'être en vie, à tout ce que tu n'as pas encore vécu. C'est magnifique. Tu réalises la chance que tu as ? Tu ne peux pas gâcher un seul instant en te lamentant sur mon sort. J'ai fait des choix, je n'en renie aucun. Même si je travaillais beaucoup, je t'ai élevé, je t'ai aimé, t'ai vu grandir, devenir un homme, et quel homme ! Alors crois-moi, je repars sans regret, sauf en ce qui concerne Camille, mais je suis certain qu'elle comprendra. Il ne nous reste plus longtemps, alors vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux, ou plutôt non, une seule, mais la plus importante à tes yeux, et je te promets d'y répondre sans détour. Thomas le regarda avec une tendresse infinie. Dis papa, c'est quoi être un père ? À quelle heure est ton avion ? Voilà, le petit discours du père qui demande à son fils de lui poser une seule question la plus importante et qui esquive. Voilà, c'est le ton du roman. Et voilà, laissez-vous porter par les mots et tentez de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un père ?»
Et on va maintenant écouter une petite chanson.
Branche la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. nous faisons un vacarme de tous les diables. Chanter juste ou chanter fort, je m'en fiche. Je préfère le rock à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Oh, les discothèques. Monsieur, je suis allergique au jazz. Passez, s'il vous plaît. C'est le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Te fais le rythme, la cadence, la chanson alors, musique moderne, populaire, ça te rengaine. À la mode, allons enfants, voudrez-vous brancher les guitares, chauffer les guitares, je m'en fiche, je préfère le rock, allons enfants, jouez. Branche les guitares, le brio.
Nous venons d'écouter le brio.
Oui, c'était ça.
Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles.
Vous l'aurez reconnu, en entendant Bojangles, c'est le premier roman d'Olivier Bourdeau, bercé par la musique envoûtante de Nina Simone, Mr. Bojangles, dont nous venons d'entendre un extrait. C'est une magnifique histoire d'amour, tragique, pétillante d'intelligence, racontée avec beaucoup de tendresse et d'optimisme par le petit garçon, et le papa qui nous interpelle aussi de temps à autre à travers ses carnets secrets, nous donnant la version adulte de l'histoire de cette étrange famille et de ce qui en viendra. Voilà un roman à l'image de son histoire, drôle, tendre, mais aussi déstabilisante, déroutante et magique. On est au cœur des fêtes et des plaisirs de cette famille atypique, on partage leur fou rire, mais aussi leur lente descente inévitable. On ressent cet amour fou qui leur permet de vivre leurs rêves et de garder un esprit libre. Je vais vous lire le premier paragraphe pour vous donner un aperçu. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est très bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures on fait les présentations, j'avais parlé non sans fierté de ces métiers dont je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée. Pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. C'est la loi qui nous fait manger, s'exclamait-il en bourrant sa pipe. Il n'était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat. Il n'était rien de tout ça. Son activité, c'était grâce à son ami sénateur qu'il pouvait l'exercer. Tenu informé à la source des nouvelles dispositions législatives, il s'était engouffré dans une nouvelle profession créée de toutes pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveaux métiers. C'est ainsi qu'il devint ouvreur de garage. Pour assurer un parc automobile sécurisé et sain, le sénateur avait décidé d'imposer un contrôle technique à tout le monde. Ainsi, les propriétaires de tacos, de limousines, d'utilitaires et de guimbards en tout genre devaient faire passer une visite médicale à leur véhicule pour éviter les accidents. Riche ou pauvre, tout le monde devait s'y plier. Alors forcément, comme c'était obligatoire, mon père facturait cher. Très cher. Il facturait l'aller et le retour, visite et contre-visite. Et d'après ses éclats de rire, c'était très bien comme ça. « je sauve des vies », riait-il le nez plongé dans ses relevés bancaires. À cette époque, sauver des vies rapportait beaucoup d'argent. Après avoir ouvert énormément de garages, il les vendit à un concurrent, ce qui fut un soulagement pour maman, qui n'aimait pas trop qu'il sauve des vies. Car pour cela, il travaillait beaucoup et nous ne le voyions quasiment jamais. Je travaille tard pour pouvoir m'arrêter tôt, lui répondit-elle. Ce que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas souvent mon père. Je le compris un peu plus au fil des ans, mais pas totalement. Et c'était bien ainsi. Voilà, donc c'est un roman qui nous emmènera dans un tourbillon de folie. Vous passerez du rire aux larmes, de la folie à la raison, à l'inéluctable. Il a été adapté en BD et Amélie va nous en parler.
Oui, tout à fait. Alors, c'était pas une chose simple que de l'adapter parce que ce roman est vraiment fabuleux. Mais Ingrid Chabert et Carole Morel ont réussi à créer ce que je dirais un deuxième en attendant Bojangles. C'est pour ça, même si vous avez lu le roman avant, ce que je vous conseille fortement parce qu'il est vraiment génial, vous n'aurez pas une impression déjà vue avec la bande dessinée. Donc le scénario d'Ingrid Chabert traduit toute la vulnérabilité de l'héroïne et aussi toute la fragilité du bonheur qu'on ressent déjà énormément dans le roman. Et quant aux illustrations, parce que du coup c'est tout ce qui se rajoute par rapport au roman et qui prend du coup une grande place dans cette bande dessinée, elles traduisent vraiment en toute simplicité tous les sentiments qui peuvent être ressentis par les personnages. Les planches sont lumineuses, on est dans des tons chauds de vert, de jaune et de orange, ça donne du peps. La place de la musique, on la ressent énormément, c'est très bien retranscrit, on voit les personnages qui dansent, il y a des notes de musique sur quasiment toutes les planches, enfin c'est vraiment fabuleux et on retrouve vraiment toute la personnalité des personnages du roman en fait. Donc c'est vraiment à découvrir et même si vous n'êtes pas amateur de BD en temps normal, ce qui est mon cas, voilà, j'ai vraiment apprécié les deux, donc c'est une valeur sûre.
Donc, le roman, on peut le trouver à Bourse et Breteuil. À Danville aussi. Et la BD.
La BD à Breteuil. Et à Breteuil.
Et en librairie.
Et en librairie. Sandrine, tu avais une autre chose
oui,
sur le thème de la musique.
Tout à fait. Je voulais vous parler du Sur les traces de Chet Baker, de Bill Moody. D'abord, quelques mots sur Chet Baker. Il est né en 1929 en Oklahoma. À 13 ans, il décide de changer le trombone que son père lui avait offert, car trop délicat à porter, pour une trompette. Bien lui en a pris puisqu'il deviendra l'un des plus grands trompettistes de l'histoire du jazz. Mais son addiction à la drogue aura raison de lui et l'emportera à 59 ans dans une chute mortelle de la fenêtre de son hôtel à Amsterdam. Tout au long de sa vie, il mènera une existence comme un roman noir où extravagance et pudeur seront les fils conducteurs. Mais revenons au roman Sur les traces donc de Chet Baker, écrit par Bill Moody, dont voici la quatrième de couverture. « Je ne résiste pas aux tons mineurs, aux accords en mineur, aux blues en mineur. Quand j'étais gamin, que je ne connaissais pas la différence entre un dièse et un bémol, encore moins entre un mineur et un majeur, il m'arrivait d'entendre une chanson à la radio ou à la télévision. » Et si elle avait une sonorité particulière, elle provoquait en moi une sorte de frémissement, de frisson, et j'adorais ça. C'était donc ça mon itinéraire musical. C'est lui qui m'avait choisi. J'étais attirée par les sonorités en mineur, par le pouvoir qu'avaient certaines combinaisons de notes de créer et d'entretenir une ambiance, d'évoquer des images de brume, d'obscurité, de rues désertes aux premières lueurs qui précèdent l'aube. Celui qui parle ainsi s'appelle Evan Horn. Il est pianiste de jazz et occasionnellement détective. Lorsqu'un de ses amis qui préparait une biographie de Chet Baker disparaît à Amsterdam sur les lieux mêmes où est mort le célèbre trompettiste, Evan ne peut faire autrement que de partir à sa recherche. Son enquête l'amène à croiser les pas de Chet Baker et à reconstituer les derniers jours de sa vie. Chet savait s'exprimer ce qui est poignant et mélancolique. Extirpant sans effort jusqu'à la dernière goutte d'émotion, il savait vous donner l'impression de s'y qu'il révélait était si intime, si secret, que vous vous sentiez coupable d'avoir surpris des confidences qui ne vous étaient pas destinées. La tonalité du roman de Bill Moody, écrivain et musicien, est à l'image de ce jugement porté par son héros sur Chet Baker. Comme l'écrit Russ Freeman, qui joua et vécut aux côtés de Chet Baker pendant 5 ans, Bill Moody a réalisé un tour de force en traitant un sujet délicat. Sur les traces de Chet Baker est beaucoup plus qu'un roman passionnant. Bill nous y donne une vision intimiste du monde du jazz et du caractère de l'un de ses musiciens les plus remarquables. Jazz et roman noir, c'est la symbiose très réussie entre un roman policier et l'évocation d'un univers musical. On pourrait presque présenter le livre comme un essai sur Chet Baker. Et en prime, vous trouverez en annexe une discographie sélective de Chet Baker. Donc amoureux du jazz, n'hésitez pas. C'est un roman absolument formidable. Et si, pour ceux qui ne connaissent pas Chet Baker, vous pouvez trouver sur la médiathèque numérique, dans la partie musique, un album intitulé In Paris de Chet Baker.
À découvrir. On continue avec un petit poème en musique.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Vous venez d'écouter Ridan, Heureux qui comme Ulysse, donc le poème de Joachim du Bellay, adapté par Ridan.
Et maintenant, nouveau support, quoique non, en fait on a eu une bande dessinée dans le lot, donc, oui. Non, donc deuxième bande dessinée. Cette fois-ci, avec pour thème central le violon. Alors en fait, je vais vous présenter deux œuvres, on va dire, là dans les 10 minutes. Je commence par la bande dessinée, mais en fait, sans le vouloir, les deux se recoupent un peu. Parce que la BD et le roman que je vous présenterai après, à chaque fois commencent par un concert et terminent par un concert. Donc toute l'histoire est ponctuée par des concerts de violon. Et violon à chaque fois de prix, puisqu'on parle d'un Steiner ou d'un encore plus connu.
Strauss.
Stradivarius, pardon. Je cherche mes mots. Alors du coup, la bande dessinée, c'est Le Cahier à fleurs de Laurent Galandon et Viviane Nicèze. Une bande dessinée qui va retracer donc, l'histoire d'une famille et de ce violon de prix durant le génocide arménien. Donc c'est une période de l'histoire qu'on connaît peu, voire pas du tout. On en a entendu parler, mais sans trop aller dans le détail. Donc elle est assez dure, ça c'est sûr. Donc clairement pour adultes, mais vraiment poignante. Et apparemment, l'auteur est un habitué des bandes dessinées qui retracent des événements historiques peu connus et assez tragiques. Il en a fait une notamment sur la guerre d'Algérie. Enfin, voilà. Donc ça permet de découvrir l'histoire autrement. Et donc là, on est dans les yeux d'un vieil homme. Alors en fait, le vieil homme, on va le découvrir dès le départ au concert. Donc c'est le concert d'un jeune homme turc. Donc, il y a ce fameux Stradivarius dans les mains. Et lors de ce concert, donc, il y a ce vieil homme dans l'assemblée qui va faire un malaise et qui va dire, avant de s'effondrer, le cahier à fleurs. Donc, il reconnaît, en fait, d'où vient le morceau joué par ce jeune garçon. Et cette petite phrase va faire en sorte que le musicien, après son concert, ce violoniste va décider d'aller voir le vieil homme à l'hôpital. Pour voir comment il va. Et le vieil homme va lui raconter son histoire, et l'histoire du violon et de cette partition. Et donc, on part en 1915, au milieu de cette famille d'Arméniens dont le père est luthier. Donc c'est avant, juste avant le pire moment, on va dire. Ils sont encore chez eux. Donc le père est luthier, il a ses deux enfants, une jeune fille adolescente qui donc, joue du violon et un petit garçon qui doit avoir à peu près 8 ans. Et donc c'est ce vieil homme, en fait, c'était le petit garçon, donc il raconte son histoire. Suite à une convocation du gouvernement à cette époque-là, tous les hommes doivent se rassembler, mais en fait aucun ne revient après la soirée. Donc toutes les familles, les grands-pères, grand-mères, femmes et enfants se retrouvent seuls et du coup décident de fuir. Le matin, avant qu'ils ne disparaissent eux aussi. Ils vont se retrouver du coup en plein exode, au milieu du désert, au milieu des peuples qui leur veulent du mal. Donc là, ça va être très très dur. Hein. Les images sont assez fortes. Voilà, on mâche pas ces mots. Enfin, c'est pas des mots, mais on mâche pas les images, on va dire. Donc les deux enfants se retrouvent vite seuls. Au milieu de pillages, de viols, de meurtres, de famines. Et ils vont perdre tous les autres membres de leur famille. Et ils seront vendus comme esclaves à une famille de bergers turcs vivant assez reclus. Donc un peu compliqué de s'en aller, parce qu'au milieu de nulle part. Donc elle est achetée pour pouvoir porter des enfants pour le reste de la famille. Et le petit pour être berger. Donc c'est pas une existence très marrante. Et ils réussissent en fait à garder le violon pendant tout ce temps. Et ça leur permettra en fait, donc la jeune fille réussit à parler à un contrebandier qui vient régulièrement dans le village, à lui donner le violon en échange de la vie de son frère en fait, pour que son frère puisse partir. Elle lui a fait, avant qu'il parte, elle lui fait apprendre par cœur la dernière page d'une partition qu'elle a écrite. Pour qu'il puisse la retranscrire quand il sera en sécurité, la remettre sur papier pour la redonner au contrebandier qui retournera au village. Comme ça, elle saura s'il est vivant. Je vous dis pas si le contrebandier revient, si bon, le petit garçon, on sait qu'il s'en sort puisqu'il y a ce vieil homme à la fin qui raconte son histoire. Je vous laisse découvrir le reste de l'histoire. En tout cas, c'est vraiment très poignant. On est vraiment dans l'émotion, enfin voilà, si vous versez pas une larme, vous y serez presque. Je sais pas ce que tu en as pensé, Pauline, à ce moment-là.
Si, bah, comme j'ai vu que tu allais le présenter et qu'il est disponible également à Verneuil, je l'ai lu ce week-end et c'est vrai que c'est une bande dessinée très dure et comme tu disais, c'est une période de l'histoire qu'on ne connaît pas. Mais au final, il y a une lueur d'espoir à la fin aussi, donc voilà, on ne sort pas non plus complètement dévasté de cette lecture. Il y a un peu d'espoir sur la fin. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé.
Que vous pouvez nous dire si c'est une série, les filles, ou un one shot?
Alors, il y a deux tomes. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Il y a deux tomes. Ça se termine à la fin du second tome. On sait ce qui se passe et donc on retourne à un deuxième concert du même jeune homme.
Et là, il va se passer quelque chose. Donc, en fait, il y a une émotion assez forte à la fin des, une bonne nouvelle, on va dire, quand même, qui vous fait tenir quand même jusqu'au bout. C'est vraiment... Alors, la bande dessinée, elle a un graphisme assez traditionnel sur le principe. Mais voilà, on a beaucoup d'émotions quand on lit. Et on imagine tout à fait que ces situations aient pu exister. Alors, pas l'histoire d'une famille avec un violon comme ça. Mais voilà, c'est un destin sur le principe de famille séparée, etc. Comme il a dû y en avoir forcément. Donc... beau regard sur l'histoire, en tout cas.
Oui, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est une partie historique qu'on ne nous apprend pas.
Ah bah complètement, c'est vrai.
Qu'on ne voit pas à l'école. Et peut-être qu'on va commencer à le voir parce qu'il faut attendre un certain temps avant de découvrir les choses.
Vrai que tout petit pays, tout petit peuple, c'est vite passé aux oubliettes. Entre
gros
guillemets.
Génocide.
Ah bah complètement, c'est sûr. Et justement, en fait, dans la BD, on voit bien la difficulté du jeune homme à parler à ce vieil homme, parce que le jeune homme, lui, est turc. Il a quand même un lien, en fait, vous verrez, avec ce vieil homme. Il va découvrir un petit peu ce qui s'est passé, ce violon qui vient pas de nulle part, quand même, qui a pas juste été trouvé en brocante. Voilà, vous verrez. Mais il y a aussi ce côté-là, transmission. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce que les Turcs ont dit sur le génocide, parce que c'était eux et ça n'a pas été vraiment avoué. Tout ça, on le voit aussi. Donc c'est vraiment un regard complet sur cette partie de l'histoire. Pour commencer à parler du roman, alors je vais vous faire passer un petit extrait. Alors c'est pas du tout la même ambiance que la bande dessinée, vous verrez. Mais voilà, c'est un extrait du concerto pour deux violons de Bach par les sœurs Camille et je ne sais plus le nom de la deuxième, mais les deux
Julie,
rousses.
Julie.
Voilà. Et donc, pas du tout la même ambiance, vous verrez, et je vous en parlerai après. Voilà pour l'extrait, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joyeux que le génocide arménien, forcément.
C'est sûr.
Alors, on va quand même être dans une histoire, alors pas tragique, mais avec des petits moments tristes ou en tout cas des histoires de vie pas faciles. Mais c'est un roman quand même beaucoup plus, on va dire...
abordable.
Optimiste. On va dire plutôt ça. Et puis abordable aussi, oui. C'est le premier roman qui a été traduit en français de l'auteur, donc Blanca Busquets, qui est catalane. Elle en a écrit plusieurs avant, mais c'est le premier à être passé en français. Alors le titre, Un cœur en silence, est assez particulier pour un roman qui parle de musique. Il n'a pas été traduit exactement mot à mot, puisqu'en espagnol, c'est la Casa del Silencio. Et la casa, c'est la maison. Donc, c'est plus la maison du silence. C'est pas vraiment pareil et ça a un petit peu plus de sens. Je vous expliquerai pourquoi. Dans ce roman, donc, on commence effectivement aussi par un concert. Ce concert, c'est le concert des 10 ans de la mort de Karl, grand chef d'orchestre reconnu de Barcelone. Et donc, le morceau que l'on a entendu juste avant, c'était son morceau préféré dans l'histoire. Voilà. Alors, quatre personnages principaux dans ce roman, autour de ce chef d'orchestre, plus ou moins, qui vont se rencontrer de diverses manières. Quatre narrateurs aussi. Donc, quatre voix différentes pour ce roman. Et à chaque chapitre, on va changer de narrateur. Donc, C'est peut-être un petit peu difficile de suivre, mais en même temps, c'est ce qui donne, alors je dirais quand même pas du suspense, mais voilà, il y a des petites choses qu'on sait qu'au fur et à mesure du roman, voire qu'à la fin. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, premier personnage, Maria, une gouvernante de Barcelone, qui sera du coup, par hasard, la gouvernante de ce fameux chef d'orchestre, donc dans cette maison très silencieuse. Elle va se retrouver complètement aux commandes de cette maison parce que ce monsieur vit sa vie de manière artiste, dans tous les sens du terme, et du coup, il s'occupe pas du tout de la maison. Donc elle va se retrouver à tout gérer, en essayant de faire le moindre bruit possible, parce que c'est soit le silence complet, soit des personnes qui jouent de la musique, lui ou les personnes qu'il fait venir chez lui. Deuxième personnage, Teresa. Alors Teresa, c'est pratiquement le personnage le plus important de l'histoire, et elle trouve, je vais vous lire l'extrait, vous allez voir, quelque chose d'assez extraordinaire quand elle est enfant. Et après avoir connu la misère et lutté, accepté 1000 privations, elle devient une musicienne reconnue. On va suivre en fait le roman, il va de sa petite enfance jusqu'à à peu près 60 ans. Donc c'est, on va dire, plutôt sur sa vie à elle que se base le roman. Vous allez avoir aussi Anna, issue de la bonne société. Très bonne musicienne, une virtuose, mais qui, elle, par contre, a connu une misère affective. Pas du tout aimée par sa mère, elle a eu beaucoup de mal à trouver sa place et elle est devenue quelqu'un d'assez dur. Et Marc ? Alors, Marc est né en Allemagne de l'Est, mais il se retrouve en Espagne. Vous verrez dans le roman pourquoi si vous le lisez. Un avenir assez rectiligne, en tout cas qui, on le voit pas énormément dans l'histoire, mais il parle par moments. Et il découvre en tout cas sur le tard ses origines, ça aura son importance. Alors, je vais vous lire le début de ce roman, qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc là, c'est Teresa qui parle. Vous allez voir, la petite difficulté de ce roman, c'est qu'on est vraiment dans les pensées du personnage et qu'on va passer d'une époque à l'autre en un paragraphe. Je vais essayer de le faire sentir assez facilement. Mon premier violon, je l'ai trouvé dans une décharge publique. Pourtant, c'était un excellent violon, même si, bien entendu, à l'époque, je ne le savais pas encore. Mais j'étais sûre d'une chose, il était magique. Ça, je m'en aperçus tout de suite, au premier coup d'œil. Parce que malgré la nuit tombée, il brillait, et en général, ce qui brille est magique. Je ne mens pas du tout. À cette époque, ma mère et moi, nous fouillions souvent dans la décharge pour trouver quelque chose à vendre. Si je racontais ça à certains de mes collègues ici, ils seraient stupéfaits. Ils arrivent les uns après les autres. Jusqu'à maintenant, j'étais seule dans la salle des concerts. Puis j'ai entendu des pas légers s'approcher de la scène. Un premier musicien est apparu, un trompettiste à l'air triste, comme s'il ne possédait rien de précieux en ce monde à part son instrument. Il me salue d'un geste de la main et marmonne quelques mots incompréhensibles. Je crois qu'on m'a dit qu'il était roumain. Cela fait un moment que je contemple les sièges vides de l'orchestre, assise à ma place, mon violon à la main. J'en ai eu assez de m'échauffer, j'avais envie de silence. Le silence de la salle est celui qui règne sur cette ville, ses places, ses rues. Le silence des feuilles mortes qui en tombent tapisse le sol des couleurs séduisantes de l'automne. Chez moi, en Catalogne, pour trouver ces couleurs, il faut aller en montagne. Ce que j'ai enfin fait adolescente, parce que, enfant, je n'ai jamais pu quitter Barcelone. Le violon changea radicalement ma vie. « Regarde ce que j'ai trouvé !» m'exclamai-je en levant dans un geste triomphal l'instrument d'une main et l'archet de l'autre. Les cordes que j'effleurais d'un mouvement involontaire émirent un son aigu et déchirant qui me toucha en plein cœur. Je n'aurais pas su dire s'il me plaisait ou pas. C'était un son étrange. J'examinai l'instrument avec attention, attiré par l'ouverture en forme de S, laisse. J'ignorais ce mot à l'époque. Bien sûr, je ne voyais qu'un trou en longueur, parce que je distinguais au fond des lettres manuscrites et je voulais les lire. Je découvris un nom, incompréhensible, et reconnus une date, 1672. Voilà, donc vous avez vu, on est à la fois au concert avant l'arrivée des spectateurs et dans son enfance quand elle a découvert le violon. Donc ouais. Le fameux Stradivarius.
Ça peut être un peu déroutant quand même. Hein.
Ça peut être un petit peu déroutant. Alors ça l'est, mais en même temps c'est ça qui fait le charme du roman. Oui. Parce qu'il y a énormément de rebondissements qui ont un rapport avec le passé. Mmh. Avec le passé des personnages, la manière dont ils se sont rencontrés les uns les autres. Et tout s'imbrique. Donc c'est un peu déroutant sur le début et après on se met dans le truc. Disons que c'est pas un roman ultra facile à cause de ça, mais par contre la langue, les phrases sont fluides et ça passe tout seul. Et c'est vraiment sympa parce qu'on découvre pas mal de choses, tout ce qui est non dit aussi dans les familles ou dans les vies. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, j'essaye de voir un petit peu s'il manque des choses pour que vous compreniez un petit peu tout ça. Non, je crois qu'on est bon. Alors oui, le roman du coup est disponible à Breteuil et à Bourthe, et vous le retrouvez encore en librairie. Il est même disponible en format poche aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous le demander ou à aller l'acheter. Voilà.
Tu peux peut-être donner le titre ?
Oui, Un cœur en silence de Blanca Busquets, édité aux Escales.
Un petit moment de musique.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Extravagante, quand l'on est sûr. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça.
D'écouter la scène de Vanessa Paradis et M.
Pas pour rien si l'on vient d'écouter cette chanson, puisque je vais vous parler du film d'animation Un monstre à Paris, réalisé par Bilbo Bergeron et sorti en octobre 2011. L'histoire se situe à Paris en 1910, pendant la Grande Crue de la Seine. Par mégarde, Raoul, un livreur slash inventeur exubérant, et Émile, projectionniste slash amoureux timide, donnent taille humaine à une puce. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Le monstre s'enfuit et sème la panique dans la capitale. Il est finalement recueilli par Lucille, une jeune chanteuse de cabaret, qui le nomme Franqueur. Mais pourquoi se prend-elle d'affection pour une puce géante, vous me direz ? Parce que le monstre chante divinement bien. Et pour cause, c'est le chanteur M, Mathieu Chédid, qui prête sa voix au monstre. Et on retrouve Vanessa Paradis dans le rôle de Lucille, mais aussi Gad Elmaleh, Ludivine Sagnier, Bruno Salomon, Julie Ferrier, et également François Cluzet dans le rôle du préfet de Paris, assoiffé de pouvoir, qui voit dans la panique qui plane sur la ville une opportunité politique. Je vous propose d'écouter un bout de la bande-annonce.
Wow. Oh mon Dieu, c'est le laboratoire du professeur!
Ne pas toucher. On va voir ce que ça fait.
C'est quoi ça? C'est le monstre qu'on a créé!
Je vais pulvériser ce monstre!
Qu'il retourne d'où il vient,
en enfer!
Je cache ma lumière sous ce manteau noir.
Est-ce que tu as un nom?
Cette chape rouge.
Suis-moi.
Ce chapeau.
Et voilà! La police ne risque pas de te reconnaître comme ça. Quoi qu'il arrive, surtout.
Cette histoire de monstre hideux et de jeune chanteuse de cabaret, ça ne vous rappelle rien? Un fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, qui a servi d'inspiration au scénariste. Et donc, comme on a pu l'entendre aussi bien dans la chanson précédente que dans la bande-annonce, c'est Mathieu Chédid et Vanessa Paradis qui ont composé et interprété les chansons du film, dont le titre La scène, que l'on a écouté il y a quelques minutes. Le film obtiendra 2 nominations au César pour meilleur film d'animation et meilleure musique, sans malheureusement remporter les prix. Donc voilà, Un monstre à Paris, c'est une jolie histoire sur la différence et l'acceptation, avec des chansons par 2 grandes stars de la chanson française, de superbes décors en images de synthèse dans un Paris inondé au début du XXe siècle, et bien sûr de l'humour et de l'amour. Un bon film d'animation aussi bien pour les petits que pour les grands, je vous le conseille. Et vous pourrez donc le retrouver en DVD à Verneuil. Et alors, pendant que j'ai la parole, j'en profite pour faire un peu de pub. Donc si on vous a proposé une émission aujourd'hui sur le même thème de la musique, c'est pas par hasard. C'est parce que ça va être la fête de la musique d'ici une semaine.
Oui, à peu près.
À peu près. Donc à Verneuil, nous vous proposons 2 spectacles musicaux. Un premier le mercredi 17 juin à 16h30 pour le public jeunesse, par Didier Lamotte. Et un second qui aura lieu cette fois vraiment le jour de la fête de la musique, le 21 juin, à 18h30. C'est un concert d'un groupe qui s'appelle Code Lemonade. Et avec un peu de chance, si le temps le permet, il aura lieu dans la cour de la médiathèque. Donc c'est plutôt sympa. À Breteuil, il me semble que vous avez aussi des choses à nous parler.
Oui, on propose un café lecture avec toutes les nouveautés qu'on aura acquises la semaine prochaine. Donc ça se déroulera le samedi 6 juillet à 14h. Donc c'est ouvert à tous, on vous parlera de nos dernières acquisitions, nos coups de cœur, mais vous êtes aussi les bienvenus pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous conseillez, ce que aussi vous avez détesté. Voilà.
À Verneuil, tu peux faire la promo aussi au Pot d'Étain, le petit café du coin. Vous avez les moyens du bord. Le samedi 15, super concert. Il y a 4 ou 5 groupes, dont les Mégots, notre groupe préféré du coin. Enfin, personnellement, après. Donc c'est gratuit, pensez à la réserver parce qu'il y a toujours plein de monde. On peut manger et boire et danser et chanter, voilà. Et rire et s'amuser.
Et toujours à Verneuil, pendant cet été, pour la 3e année consécutive, on vous propose la médiathèque Prend l'air. C'est des lectures à destination des petits et des grands dans les parcs de la ville. Donc pour cette année, sur juillet-août, il y aura 4 rendez-vous. Le premier aura lieu le jeudi 11 juillet à 16h au parc de la mairie. On espère vous y voir nombreux. C'était notre dernière émission de la saison. Voilà, donc on reprendra en septembre prochain. Sur le thème, ce sera l'espace, les sciences, etc. en parallèle du Salon du Livre de Verneuil. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fête de la musique et des bonnes vacances.
De bonnes vacances, un bel été et un peu de soleil.
Ce serait pas mal pour lire dehors. Et n'oubliez pas, on est toujours là. Venez chercher vos livres pour l'été dans vos bibliothèques préférées. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Life could be a dream, sweetheart.